franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, un arbre emblématique qui livre enfin ses secrets.
Tiens, il me reste encore un gland dans la poche.
Non, Obélix, pas par terre.
Obélix, tu vas me déraciner cet arbre immédiatement.
Ah non, je peux pas faire ça à Idéfix.
Voilà, les glands du chêne qu'ont bien sûr connu les Gaulois d'Armorique et le genre Quercus en particulier, puisque ces arbres sont présents sur Terre, paraît-il, depuis 30 millions d'années. Et pour la première fois, le génome du chêne pédonculé vient d'être séquencé par des équipes de l'INRA et du CEA. Un travail qui a quand même pris 3 ans, qui a mobilisé plusieurs dizaines de chercheurs, et le tout donc pour établir un résultat de référence qui va maintenant permettre de nombreuses avancées, comme on va le voir avec vous, Christophe Plomion. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes généticien et directeur de recherche à l'INRA. C'est vous qui avez coordonné ces travaux. Alors, le chêne pédonculé, c'est celui que tous les promeneurs croisent le dimanche en forêt, c'est ça, hein?
Oui, en fait, la forêt française, bon, c'est 16 millions d'hectares de forêt, et les chênés, bon an, mal an, ça représente à peu près 30% de cette forêt au niveau de la métropole, et avec 3 espèces principales, le chêne pédonculé, le chêne sessile et le chêne pubescent.
Alors, séquencer justement le génome d'un tel arbre, c'est 3 ans de travaux, 40 chercheurs associés, ça veut dire qu'il y a une vraie complexité dans le fait de décortiquer l'ADN d'un chêne.
Oui, alors je voudrais indiquer tout d'abord à nos auditeurs donc que le séquençage du génome du chêne, c'est le fruit de ce partenariat entre l'INRA et le CEA avec le soutien de financiers de l'ANR. Donc il nous a permis effectivement d'être les premiers sur la scène internationale à mettre à disposition à la communauté scientifique bon an mal an 1,5 milliard de bases organiques de l'ADN, hein, qui est donc ces bases qui sont porteurs de l'information génétique qu'on appelle des acides nucléiques. Donc il y en a 4, hein, ATCG, qui s'agencent en une macromolécule qui est formée de 2 brins enroulés en double hélice. Voilà, c'est ça qu'on a décrit, la séquence de ces 1,5 milliard de bases organiques.
Donc il a fallu remettre toutes les pièces du puzzle dans le bon sens, c'est
ah,
ça?
Ah oui, ça a été.
Bon, enfin, vous avez des machines pour ça, c'est pas vous avec vos petites mains.
Heureusement, imaginez-vous, ça a mobilisé déjà toute une chaîne de compétences, hein, qui va de l'extraction de l'ADN de l'arbre, et effectivement la découpe en morceaux de tailles différentes du génome, qui sont alors séquencés, assemblés pour reconstituer la séquence de chaque chromosome. Bon, il y en a 24 chez le chêne, hein, de chromosomes. Alors, si vous voulez, pour mieux expliquer aux auditeurs, on pourrait, pour expliquer la stratégie qui a été suivie, je vais utiliser une analogie assez simple. Mm-hmm. C'est imaginer qu'on découpe au hasard un texte d'une page, donc en paragraphe, en phrase ou en groupe de mots, et tout ça mélangé. Il vous sera certainement facile, j'imagine, en quelques minutes, de reconstituer l'ensemble du texte de départ, mais imaginez l'exercice maintenant sur une encyclopédie de 24 volumes, donc les 24 chromosomes du chêne, chacun portant des milliers de pages. Alors cette tâche, évidemment, elle va pas pouvoir être accomplie comme ça, quoi. Donc il va vraiment faire mettre au point une méthode, un algorithme mathématique qui cherchera systématiquement les points d'ancrage entre ces paragraphes, les phrases et les groupes de mots qui auront été découpés par hasard. Donc, si vous voulez, appliquer au génome du chêne, ça a mobilisé vraiment d'énormes capacités de séquençage et de calcul informatique qui ont été mis en œuvre par une équipe du CEA. Donc de Jean-Marc Horry au Centre National de Séquençage à Évry.
Et donc, Axel.
Et donc ce génome publié maintenant va intéresser les truffiers et les vignerons. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans cette carte d'identité?
Oui, bah alors ça, ce sont des applications effectivement importantes, mais quand même anecdotiques.
Ah
oui,
mais quand même, ça nous intéresse, nous.
Ah oui, ça vous intéresse. Mais bon, les recherches de l'INRA se focalisent surtout sur l'adaptation, en fait, au changement climatique. Mm-hmm. Donc c'est vraiment principalement là-dessus que vont se focaliser nos recherches et que cette ressource va nous aider à comprendre.
Pourquoi? Parce qu'on peut lire des choses dans l'ADN, justement, du chêne.
En fait, ce qui se passe, c'est que les forestiers, ils ont depuis longtemps pris la nécessité, hein, d'utiliser les ressources génétiques locales pour garantir la meilleure adaptabilité des peuplements à leur environnement. Mmh. Et ce qui se passe maintenant, c'est que à l'aune du réchauffement climatique, on parle de plusieurs degrés quand même à l'échelle du siècle, ça pourrait remettre en question, hein, ces pratiques, car il se pourrait très bien qu'il y ait un décalage entre l'optimum adaptatif des ressources locales qu'on utilise et le nouveau climat que les populations vont subir là, dans les prochaines décennies. Si vous voulez, les décisions politiques de reboisement qui sont prises actuellement, elles vont pas conduire forcément à une bonne adaptation des forêts au climat de demain. Donc soit parce qu'on n'aura pas anticipé le décalage, ou soit parce qu'on l'aura au contraire trop anticipé. Donc une des missions de l'INRA, c'est d'apporter des connaissances sur les trajectoires de ces peuplements forestiers. Donc autrement dit, d'essayer de comprendre est-ce que les formations forestières vont s'adapter au climat. Au climat de demain. Et le génome peut nous fournir une source de connaissances pour répondre à cette question.
Et comment justement on repère ces traces évolutives là dans le génome du chêne ?
Alors l'idée est assez simple. L'idée de base, c'est de décrire et de mieux comprendre les trajectoires évolutives du passé hein, en termes de démographie et d'effet de la sélection naturelle. Et ces traces évolutives, ces processus évolutifs, ils ont façonné en fait le génome des arbres au cours des derniers millénaires. Donc en Europe, si vous voulez, pendant le dernier optimum glaciaire, les populations de chênes et de plein d'autres organismes vivants hein, s'étaient réfugiés dans des régions méridionales comme le sud de la péninsule ibérique ou le sud de la botte italienne. Et puis ils ont recolonisé l'Europe suite à la fonte de la calotte glaciaire. Donc en quelques milliers d'années, si vous voulez, au cours de l'Holocène, entre moins 15 000 et moins 8 000, les chênes sont remontés au nord jusqu'en Suède et même jusqu'aux montagnes de l'Oural à l'est. Et pendant cette migration, ces populations ont rencontré des milieux et des climats très différents. Et donc elles se sont adaptées localement. C'est le principe tout simple de la sélection naturelle décrit par Darwin au XIXe siècle. Donc ce processus, il stipule que l'environnement il joue un rôle de filtre sélectif au travers duquel ne vont survivre et se reproduire que les individus qui portent des caractères favorables et qui leur sont favoris et ils seront favorisés dans un environnement particulier. Donc ils vont pouvoir se développer et mieux se reproduire les uns avec les autres. Et du coup, les mutations favorables des gènes qui contrôlent ces caractères adaptatifs, ils vont voir leur fréquence augmenter. Et c'est cette empreinte génomique de la sélection naturelle qu'on va pouvoir décrypter grâce à la séquence de ce génome de référence.
Alors Christophe Plomion, pour terminer, quand même un mot sur les truffes, le whisky et le vin.
Oui, c'est important, oui.
Bah dites-nous un petit mot.
Bon, voilà, quand on pense à chêne, on pense à quoi ? On pense au tonneau, où il y a la maturation des vins et des alcools.
Ouais.
Et cette maturation et le goût qu'on retire de ces breuvages, il dépend en partie des tanins qui sont échangés entre le bois du chêne et puis voilà les vins et les alcools. Et effectivement, on connaît très peu de choses sur les chaînes de biosynthèse de ces tanins, des whisky lactones qui sont échangés entre le bois et les boissons. Et donc ça va nous permettre l'accès à la séquence du génome du chêne, de mieux décrypter, de mieux connaître les chaînes métaboliques impliquées dans ces.
C'est une application,
possible. C'est une application. Ouais.
Grâce directement donc au séquençage du génome du chêne pédonculé réalisé en France. Merci beaucoup pour vos explications, Christophe Plomion.
Au revoir.
Et au revoir. Axel, on réécoute la une de la science, comme d'habitude.
On réécoute celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle de toute la semaine, tous les jours, 10 minutes, sur le site franceinter.fr, les podcasts.
Merci beaucoup et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'ancêtre des oiseaux plus vieux que prévu, le parent commun aux 10 000 espèces d'oiseaux actuels, l'ornithuare, était jusqu'à présent vieux de 125 millions d'années, mais la découverte dans le nord-est de la Chine de nouveaux fossiles recule de 5 millions d'années leur apparition. Cette nouvelle espèce avait un mode de vie semi-aquatique et devait arpenter les nombreux marécages qui couvraient à l'époque la région. La hausse du niveau de la mer serait plus forte que prévu. Des études basées sur des données satellitaires avaient conclu un ralentissement du phénomène, mais en prenant en compte la hausse de la surface terrestre, provoquée notamment par les séismes. Les chercheurs australiens ont constaté que le niveau de la mer avait augmenté bien plus fortement que prévu depuis le début du XXIe siècle. Des observations plus conformes avec le rythme de la fonte des glaces et qui collent aux prévisions du GIEC, qui anticipe une hausse du niveau des océans de 26 à 82 cm à l'horizon 2100. Et puis les rhinocéros de plus en plus convoités par les braconniers. Les quatre premiers mois de l'année ont vu 393 bêtes tuées en Afrique du Sud, soit près de 18% de hausse par rapport à l'année dernière. Cette progression inquiète les autorités car elle rapproche un peu plus la population de rhinocéros du seuil où la mortalité dépassera le nombre de naissances. L'Afrique du Sud, avec ses 20 000 animaux, représente 80% de la population mondiale de rhinocéros.